France Inter.
Corinne.
Bonjour à tous.
À la une ce matin, un homme et une flamme.
Il a veillé toute la nuit sur la flamme olympique avant son voyage vers Marseille à bord du Bélem. Tony Estanguet l'a reçu hier à Athènes des mains des Grecs. Vous entendrez le patron des JO de Paris, ému et fier dès le début de ce journal. Tandis que le métro parisien voit la vie en rose, c'est la couleur de la signalétique spéciale JO. Notre reporter l'a testé pour vous à la station Madeleine. Dans l'actualité aussi, la mansuétude des agences de notation, Moody's et Fitch n'ont pas baissé la note de la dette souveraine de la France. La loi britannique sur l'expulsion des demandeurs d'asile au Rwanda ne décourage pas les candidats à l'exil. Nous ferons étape au printemps de Bourges, concert de Thomas de Pourquerie hier soir. Et puis un grand chelem en jeu en rugby et un compte à rebours pour Raphaël Nadal dans le journal des sports de Nicolas Perronnet. Avant votre invité à 8h20, Ali et Marion.
Et ça a à voir avec le sport aussi, même si elle dirige le plus grand musée de France et même du monde, le Louvre qui est au cœur des Jeux Olympiques avec des visites sportives du musée. Et cette exposition, l'Olympisme, une invention moderne, un héritage antique. Notre invité exceptionnel sera la présidente directrice du Louvre, Laurence Descartes.
Votre passion pour le sport, votre passion pour l'art en l'occurrence, vous pouvez nous appeler et poser toutes vos questions à Laurence Descartes au 01 45 24 7000 ou sur l'application France Inter.
France Inter.
Tout feu, tout flamme, Tony Estanguet, le monsieur JO de Paris 2024, a reçu hier après-midi au stade d'Athènes le précieux flambeau. La flamme olympique s'apprête à embarquer sur le Bélem ce matin, départ prévu dans environ 2 heures. Le 3 mât quittera le Pirée pour voguer vers Marseille. À bord, le président du comité d'organisation de Paris 2024, Tony Estanguet, ému et fier.
Hier, j'ai eu ma petite larme et une très forte émotion. C'est vrai que voilà, c'est un immense honneur. Ça y est, nous avons récupéré la flamme dans ce stade panathénaïque mythique, là où un peu tout a commencé en 1896. Et ce matin, elle monte à bord du Bélem, là, et c'est parti pour une très belle traversée. C'est un beau symbole, ramener la flamme en France à bord de ce plus vieux trois-mâts qui date de 1896, lui aussi. Et l'équipage des jeunes, 15 jeunes de toute la France, ils vont ramener vivre cette expérience incroyable.
Tony Estanguet, invité de France Info. Le Bélem accostera le 8 mai à Marseille avant un périple de 2 mois et demi pour la flamme à travers la France. Le premier relayeur sur le sol français sera le nageur et quadruple médaillé olympique Florent Manaudou. Et pendant que la flamme se balade, l'Île-de-France se prépare à la déferlante de touristes attendus pendant les Jeux Olympiques. 10 millions de visiteurs qu'il va falloir guider dans les transports parisiens. Depuis quelques jours, la signalétique spéciale JO apparaît dans le métro, des flèches, des icônes, des panneaux et même le nom des stations sur fond rose pour trouver le chemin du Stade de France ou pour éviter la foule. Est-ce qu'on s'y retrouve ? Reportage de Robin Schmitt à Madeleine, à Paris, qui fait office de station test.
En contrebas des escaliers du métro, un panneau rose recense les 28 sites olympiques de Paris et les plus de 70 trajets pour s'y rendre. Xavier Guépet, porte-parole d'Île-de-France Mobilité.
Il y a tous les symboles des Jeux Olympiques qui apparaissent, les symboles des endroits, les différents modes d'accès. Donc on va guider les gens au mieux dans les espaces olympiques.
Mais dans la foule du métro, difficile de trouver des usagers convaincus.
De base, moi je trouve ça assez logique de se mouvoir dans le métro, les bus, tout ça à Paris en vrai. Mais là, c'est clairement pas lisible. Hein.
Pas très clair non plus pour Marianne, une touriste anglaise.
Bon, on connaît la complexité du métro, mais non, c'est vraiment pas facile. Je crois que Google Maps, ça va être plus simple. Il faut le rendre un peu plus tactile ou quelque chose qu'on peut interagir.
Justement, la signalétique fonctionne avec l'application Transport Paris 2024. Le but, c'est de proposer différents trajets vers un même site pour éviter de saturer les lignes, poursuit Xavier Guépet, porte-parole du réseau.
Tous les gens qui iront sur les sites olympiques auront un itinéraire dédié pour canaliser les flux. Et les franciliens qui ont leurs habitudes, eux, vont continuer à se déplacer selon leurs habitudes avec les modes de transport qu'ils connaissent.
L'installation des panneaux se poursuit jusqu'en juillet 2024 pour gérer les plus de 10 millions de visiteurs attendus sur la période des Jeux.
Et 16 lignes et 60 stations vont voir fleurir ces signes roses.
La France échappe aux mauvaises notes, Corinne.
Le gouvernement s'y était préparé après le dérapage du déficit public en 2023. Mais finalement, les redoutées agences de notation américaines Moody's et Fitch n'ont pas baissé la note souveraine de la France. Elles gardent donc son AA2 et son AA- avec perspective stable. C'est moins bien que les premiers de la classe, mais ça reste tout à fait honorable, explique Éric Dor, directeur des études économiques à l'IESEG School of Management.
Les meilleures dettes, celles des pays AAA comme l'Allemagne, elles sont rares. C'est d'ailleurs pour ça que ces pays ont un triple A. Et donc, elles ne suffisent pas à satisfaire les appétits d'investissement de tous ces investisseurs internationaux qui achètent les grandes dettes publiques. Une fois qu'on a acheté de la dette allemande ou d'autres pays très bien notés, il faut trouver autre chose. Et juste après vient une dette comme celle de la France. Donc voilà, c'est une bonne nouvelle pour la France parce que ça écarte le risque de voir augmenter le taux d'intérêt que les investisseurs internationaux exigent pour prêter à la France. Or, c'est vraiment la dernière des choses dont on a besoin maintenant, alors qu'il faut essayer de comprimer les dépenses publiques. Les intérêts de la dette, c'est quand même une partie importante de la dépense publique. Donc, c'est vraiment bienvenu. Ça va faciliter l'effort d'assainissement des finances publiques.
Éric Dor, interrogé par Agnès Soubiran. Le blocage est terminé à Sciences Po Paris. Les étudiants pro-palestiniens ont levé le camp hier soir après des annonces de la direction. Elles s'engagent à organiser un débat interne, notamment sur les partenariats avec des universités israéliennes. Et elles suspendent les procédures disciplinaires lancées contre plusieurs étudiants. De nouvelles mesures pour aider le monde agricole, c'est ce que s'apprête à annoncer Gabriel Attal. Le Premier ministre sera aujourd'hui dans la Manche, 2 mois après les engagements pris pour calmer la colère des paysans. Ces avancées concernent la trésorerie des agriculteurs. Lauriane Delanoë.
La principale annonce de Gabriel Attal aujourd'hui vise les agriculteurs les plus en difficulté, ceux que les banques classiques ne peuvent plus ou ne veulent plus accompagner. BPI France, la banque publique d'investissement, va prendre le relais avec une enveloppe de 100 millions d'euros en tout. Les exploitants pourront demander un prêt personnel jusqu'à 75 000 euros chacun. BPI France pourra aussi transformer une de leurs créances en prêt immédiat ou encore leur apporter une garantie pour un prêt dans une banque commerciale. Et pour les agriculteurs dans le rouge, en d'été à la suite d'un désastre sanitaire ou climatique, le Premier ministre acte une exonération partielle d'impôts, des dispositions pour soutenir la trésorerie et le revenu des agriculteurs pour leur redonner de la compétitivité. Avec ce dernier paquet de mesures, le gouvernement estime apporter une réponse globale aux préoccupations des agriculteurs et de leurs syndicats. Il espère ainsi tourner la page de la mobilisation de l'hiver.
Lauriane Delanoë, l'autoroute A13 va rester fermée la semaine prochaine entre Paris et Vaucresson. Pas de réouverture le 1er mai comme espéré. Des analyses sont toujours en cours sur une fissure importante apparue sur la chaussée. Et puis dans l'est de la France, le trafic ferroviaire reprend ce matin après une coupure électrique hier après-midi qui a fortement perturbé la circulation des trains. Les trains roulent à nouveau dans les deux sens entre Paris et Strasbourg sur la ligne à grande vitesse. Des retards sont cependant à prévoir jusqu'à 13h.
8h08, au Royaume-Uni, la loi ne décourage pas les candidats à l'exil.
Cette semaine, le Parlement britannique a adopté un texte controversé. Il prévoit la possibilité d'expulser vers le Rwanda des demandeurs d'asile entrés illégalement au Royaume-Uni. Et ça ne dissuade pas les exilés de tenter de traverser la Manche sur des bateaux de fortune. Reportage à Douvres sur la côte anglaise d'Emeline Vin.
Une cinquantaine de migrants débarquent d'un bateau de la police britannique, les vêtements trempés, certains pieds nus, sous les yeux de Carole Higginbottom, directrice adjointe du poste de commande aux petites embarcations.
On conduit de premiers tests à bord pour s'assurer que ceux qui sont blessés ou malades sont traités en premier. Ensuite, ici, on les amène dans une première tente, qui est la tente médicale, où tout le monde sera examiné par un ambulancier. Après, ils entreront dans le système administratif.
Les migrants sont partis du nord de la France à bord d'un bateau pneumatique d'une dizaine de mètres de long. Trevor Taylor, officier supérieur, connaît ce type d'embarcation.
À première vue, ça a l'air d'être un équipement solide, mais en réalité, ça ne l'est pas. Ce bateau n'est pas fabriqué suivant des normes industrielles. Il vient littéralement d'un garage, avec des matériaux inadaptés pour un navire.
Carole Higginbottom espère que le nouveau partenariat avec le Rwanda va mettre un terme à ces traversées.
Je ne peux pas commenter l'aspect politique, mais j'espère que cela aura un impact. Notre priorité, c'est de prévenir toute perte de vie et d'empêcher les groupes criminels de faire de gros profits en risquant des vies humaines.
Toujours dans un objectif de dissuasion, le gouvernement finance aussi des campagnes sur les réseaux sociaux dans les pays d'origine, notamment au Vietnam. Londres, Emeline Vin, RFI pour France Inter.
Et eux n'ont pas réussi à traverser. 54 personnes ont été secourues hier au large d'Ardelot-Plage dans le Pas-de-Calais. Le préfet maritime du Nord rappelle que ce secteur est particulièrement dangereux. Au Proche-Orient, pas d'avancée sur un espoir de trêve. Ce matin, le Hamas annonce qu'il étudie une contre-proposition israélienne. Une délégation égyptienne est arrivée hier à Jérusalem pour tenter de relancer les négociations à la fois sur une trêve à Gaza et sur la libération d'otages israéliens.
On termine en musique, Corinne, du côté de Bourges.
Au printemps du même nom qui se poursuit jusqu'à dimanche et qui a vibré hier soir au concert de Thomas de Pourquerie, le saxophoniste a quitté ses habits de jazzman pour ceux de crooner, une création lancée justement l'année dernière à Bourges. Mathieu Culeron.
À la basse, monsieur Sylvain Daniel, fait du bruit pour lui, s'il vous plaît.
Ils sont rares, les artistes qui sont à l'affiche du printemps de Bourges deux années de suite. Thomas de Pourquerie fait partie de cette catégorie.
Mais oui, ça fait un an déjà, et depuis on a enregistré l'album. Et maintenant on vient présenter l'album au Palais d'Oron, c'est la fête, c'est merveilleux. Vive la musique, il faut fêter la musique chaque jour, chaque seconde, c'est tellement merveilleux. On a besoin de ça, quoi. Ça nous sauve la vie. Et nous, musiciens, on a cette chance d'être sauvés un peu plus chaque jour.
Crooner cosmique, Thomas de Pourquerie, héros du saxophone, vit sa vie de chanteur avec un enthousiasme communicatif. Et que dire de ce moment suspendu où il partage le micro avec Lara Isée, également présente lors de cette soirée au Palais d'Oron. Thomas qui ne cesse de glorifier l'amour et la musique dans son dernier album.
En fait, c'est ce que m'apprend la musique. La musique en elle-même est un acte d'amour. La musique est un acte qui nous connecte au présent, le seul instant éternel, le seul moment d'éternité connu. La musique, la vie et les étoiles. Je crois qu'on est là que pour ça, et de constater ça, c'est assez extatique. Je crois qu'on devrait se concentrer un peu plus là-dessus.
Thomas de Pourquerie qui a fait chavirer Bourges avec sa générosité et son talent. Artiste total, son concert hier soir restera comme l'un des grands moments du printemps de Bourges.
Et pour ceux qui n'y étaient pas, Thomas de Pourquerie sera en concert le 30 avril à Strasbourg, le 4 mai à Lille et le 23 à Nantes.
8h12 sur Inter, le journal des sports.
Avec Nicolas Perronnet ce matin, bonjour.
Bonjour Corinne.
Un grand chelem en jeu pour les Françaises en rugby.
À 6 ans que ce n'est plus arrivé, hein, les Bleus privés de grand chelem à chaque fois par leurs adversaires du jour, les Anglaises dans le tournoi des 6 nations féminin. Alors deux raisons d'y croire cet après-midi pour ce dernier match. Hein, d'abord le stade Chaban-Delmas à Bordeaux, copieusement garni, 26 000 spectateurs attendus, c'est un record. Et puis la détermination des Françaises à l'image de la centre Marine Ménager, écoutez, impatiente de changer le cours de l'histoire.
Je pense que c'est hyper challengeant. Quand on joue au plus haut niveau, on a envie de rencontrer les meilleurs athlètes à nos postes. Et aujourd'hui, on a la chance de pouvoir rencontrer des filles qui font partie, voire qui sont les meilleures à leur poste. Maintenant, à nous de montrer qu'on peut être encore au-dessus et d'aller les chercher et de montrer qu'on n'a pas peur, nous. Il n'y a pas de souci, vous avez fait un super tournoi, félicitations, mais on est là et on va venir vous chercher.
À 17h45, hein, Corinne, pour ce nouveau crunch qui promet le coup d'envoi de ce France-Angleterre.
Et en football, les Canaries se rapprochent du maintien.
Oui, à petit pas, un petit point hier soir, celui du match nul, un but partout, décroché à Montpellier en ouverture du week-end de Ligue 1. Une 31e journée marquée par le sacre possible, probable, du Paris Saint-Germain ce soir. Un 12e titre de champion qui tend les bras aux Parisiens en cas de victoire au Parc des Princes face au Havre. Le tout à 4 jours maintenant de la demi-finale aller de Ligue des Champions, évidemment, à Dortmund.
Et ça commence à sentir la fin, le compte à rebours enclenché pour Raphaël Nadal.
Il n'y a plus que deux tournois avant de s'attaquer à l'objectif de sa fin de carrière. Un 15e titre à Roland-Garros. Il affronte Alex de Minaur cet après-midi au deuxième tour du tournoi de Madrid. L'Australien Alex de Minaur qui avait justement éliminé l'Espagnol d'un autre tournoi, celui de Barcelone la semaine dernière. Fabrice Abgral, c'est un nouveau test grandeur nature à 37 ans pour Raphaël Nadal.
Ce que recherche Raphaël Nadal avant tout, c'est jouer, disputer des matchs pour retrouver le rythme de la compétition. Parce que pour lui, le plus important, c'est d'être prêt dans un mois.
Mon objectif final est de me donner une chance d'être compétitif à Roland-Garros, mais aujourd'hui, je n'en suis pas capable. J'espère être prêt dans quelques semaines et je vais tout faire pour, vraiment.
Raphaël Nadal avoue aisément désormais qu'à 37 ans, il n'a plus le physique pour continuer. Il va arrêter cette année, mais quand ? Tout dépendra de son corps. C'est ce que dit Gilles Simon, l'ex numéro 6 mondial.
Quand ça bascule, c'est d'un coup, c'est net. On sait que le moment où ça va s'arrêter, ça va faire boum, fini. Et c'est pas lui qui décidera s'il peut faire un des Jeux Olympiques ou machin. Il va essayer, bien sûr. Il va s'entraîner. Par contre, faut quand même pouvoir aller un moment physiquement, jouer, courir. Et si tu peux pas le faire, et ben, c'est l'arrêt de carrière. Et c'est comme ça.
Mais ça, Gaël, mon fils, ne veut pas y penser.
On a envie de le revoir briller. On a envie de le revoir guerrier comme il a toujours été. Donc, je reste patient.
La plus belle fin pour Raphaël Nadal, ce serait laquelle ? Ce serait Roland Garros, les Jeux Olympiques ou ailleurs ?
La plus belle fin pour lui, ce sera quand lui l'aura décidé.
Et ce sera peut-être à Berlin, où Nadal disputera la Lever Cup du 20 au 22 septembre prochain. C'est peut-être là, en effet, dans cette exhibition par équipe, qu'il terminera sa carrière comme l'a fait Federer en 2022.
Et un Français également sur le court aujourd'hui à Madrid, Adrian Manarino, opposé au Canadien Félix Auger-Aliassime.
Merci Nicolas Perronnet pour ce journal des sports.
Dans le journal de Corinne Audouin, il est 8h15 sur France Inter.
La météo avec Euromaster. Toujours là pour entretenir les véhicules des pros et des particuliers. Véhicules électriques, hybrides ou thermiques, Euromaster garantit votre mobilité et préserve votre budget.
Céline Dacosta, le ciel est orageux sur l'ouest du pays.
Oui, avec les premiers orages sur le Poitou-Charentes. Non, c'est Corinne Audouin qui me chatouille en passant. Voilà, vous savez tout. Les premiers orages sur le Poitou-Charentes ce matin, des averses parfois soutenues, présentes également des Pays de la Loire vers l'Île-de-France. Averses qu'on retrouve également sur les Cévennes, là, déjà ce matin. Ciel bien nuageux pour le reste du pays, sauf sur le flanc est où on aura encore quelques éclaircies entre l'Alsace et la région PACA. Là où il va faire le plus beau, c'est dans le nord-est aujourd'hui. Le vent soutenu va s'intensifier dans l'après-midi, surtout sous les orages plus nombreux et potentiellement plus violents avec des chutes de grêle. Orages attendus principalement sur le sud-ouest où 8 départements sont en vigilance orange, de la Charente au Gers.
Le tout sous des températures un peu plus clémentes.
Oui, il fait encore un petit peu frais par endroits ce matin sur la moitié nord, 4 à Brest, 7 à Nantes ou 8 à Lille. Ça remonte cet après-midi avec une moyenne du nord au sud qui sera enfin à nouveau dans les normales de saison. 13 à Cherbourg pour la plus basse, 23 à Ajaccio pour la plus élevée, en passant par 17 degrés à Paris et à Bordeaux.
Merci Céline Dacosta. Merci d'écouter Inter. Il est 8h17.